Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Il me tardait de vous recevoir ici à l'antenne de Canal B pour parler enfin de livres photo. Yves, tu as amené une invitée aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, ça va, nickel, je suis content d'être là.
Moi aussi, les éditions de juillet, ça va toujours ?
Ça va, on se maintient.
Trop bien. Et ton invitée, c'est Clara Bessou. Bonjour Clara.
Bonjour.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
D'une œuvre.
D'une œuvre, la tienne, mais
non,
pas que.
Non, pas mon œuvre à moi, celle de Claude Bessou.
Ok, vous connaissez Claude Bessou ? Juste après la musique alors. Parce que quand je tiens un livre dans la main, bien sûr, je me pose la question, mais il vient d'où ? Qui l'a écrit ? Ces images viennent d'où ? Est-ce que ce sont des photos, des dessins ? Est-ce que ce sont des souvenirs, des choses qu'on vient de faire dans le présent ou bien des choses du passé ? Yves, Claude Besson, illusionniste de Clara Bessou, ton invité aujourd'hui, est un livre paru aux éditions de juillet en mois de septembre. Alors, est-ce que c'est un livre photo ?
Pas proprement parler, parce qu'un livre photo, j'ai besoin de redéfinir ce qu'un livre photo. C'est un livre qui utilise les images pour la narration. C'est-à-dire qu'il y a une narration qui se fait uniquement par l'image dans un livre photo. Là, on peut parler plutôt d'un livre illustré de reproduction d'œuvres, puisque Claude Bessou n'était pas photographe. Il était, mais je crois que Clara va en parler beaucoup mieux que moi, mais j'introduis, hein, Clara, tu me pardonnes. Mais il était davantage un artiste complet, mais pas photographe pour le coup.
Alors, un artiste complet, Clara, ton père, il était, mais il était aussi un artiste de l'ombre, finalement.
Absolument. Absolument, mais parce qu'il aimait bien être à l'ombre tout en agissant très clairement sur plein de talents différents. J'aime bien le présenter comme un artiste singulier, mais avec une palette de talents énorme. Et c'est ça qui était important de redire aujourd'hui, même si dans les années où il a énormément exercé dans le Grand Ouest, pour élargir un peu la perspective, il était très reconnu. Mais là, pour moi, il tombait dans l'oubli. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai entrepris cet ouvrage.
Voilà. Alors voilà, avec ton père, tu partages quand même des passions, puisque toi-même, tu es scénographe, tu es architecte. Donc, la construction, c'est quelque chose que te parle. Je veux quand même savoir, des yeux de la petite fille que tu étais, en regardant le métier de ton père, qui façonnait des décors de théâtre, entre autres, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là ? Est-ce que c'était magique ?
absolument magique. Parce que c'était quelqu'un qui était à la fois... je sentais bien qu'il était un professionnel reconnu, mais il m'emmenait partout. Il m'emmenait au théâtre, j'assistais à toutes les premières et les générales. C'était même parfois la corvée, parce que voilà.
Il fallait attendre.
Il fallait attendre, je m'endormais souvent d'ailleurs. mais en même temps, il m'autorisait à aller partout. Donc je me rappelle, moi, les premières heures de la Maison des Cultures, je connaissais la Maison des Cultures comme ma poche. J'adorais aller à l'atelier, j'adorais aller voir les costumières, j'adorais aller voir tout le monde. Et du coup, je pense que le goût de l'architecture ne m'est pas arrivé comme ça, par hasard, parce que j'étais déjà très sensible à tous ces univers différents, que ça soit un électricien, un métallier, une costumière, une modiste.
Voilà, à la fois, il y a le côté technique, artistique, mais il y a aussi l'accueil du public, de comment on va tout préparer pour le recevoir, pour raconter des histoires. C'est absolument magique, mais le métier de scénographe en lui-même est un métier relativement récent, du moins avec cette appellation-là.
Avec cette appellation-là, on peut la résumer dans les années 70. Mmh. Et je pense que Claude Bessous, en exagéré, c'est un des premiers à utiliser ce terme-là. Quand, dans les années 70, avec l'apparition de plus d'argent, de grandes productions, des scènes de plus en plus grandes, on a commencé à faire des décors qui éclataient tout, en fait. Quand je dis éclater, ça éclatait l'espace. Et du coup, un décor, autrefois, souvent, c'était un décor par acte ou par scène.
Oui, enfin, voilà, parce qu'on était plus dans l'opéra, on était
pas
dans
forcément.
D'autres sortes de...
Pas forcément. C'est pas lié forcément à l'opéra, mais c'est que on respectait surtout, je pense, aux premières maquettes ou pour un même spectacle. Par exemple, je pense à Knock ou au Barbier de Séville de Beaumarchais, qui est plus connu. Il y a eu 3 décors pour la même pièce. Mais dans les années 70, avec des plateaux plus grands, la scénographie s'est attachée à découper, ce qu'on appelle à découper un plateau, pour que dans un même espace, découpé par l'éclairage et les effets. On puisse raconter toute une histoire, même s'il y avait 4, 5, 6 actes, que c'est plus rare, mais voilà.
Est-ce que nous sommes en train de parler d'un Breton?
Non, nous parlons d'un Parisien à la base.
Ouais, d'un Parisien, mais toi tu vis en Bretagne, Clara.
Oui, moi je suis née en Bretagne.
C'était quoi alors? C'était parce qu'il y avait le métier qui l'a amené à travailler dans le Grand Ouest, que vous vous êtes établi par ici?
Alors, juste pour la faire courte au niveau de l'histoire, il faut ne pas oublier que Claude est parisien. Il a fait des études aux Arts Déco à Paris et il a été nommé professeur de décoration plane aux Beaux-Arts de Rennes en 48. Il arrive, il a 23 ans, ses premiers élèves ont 20 ans. Donc au début, c'est un Parisien qui travaille en Bretagne, mais qui continue à exercer en tant que décorateur théâtre ou autre, hein, d'ailleurs, pas encore vraiment théâtre, mais il était décorateur, il faisait des boîtes de nuit, des appartements. Mais, il a rencontré sa femme, ça change tout. Donc il est devenu breton pour de bon en 57 en épousant une de ses élèves.
Ah, c'est beau, ça.
Qui n'était pas beaucoup moins âgée que lui quand même.
Oui. Elle avait 12 ans de moins que lui, je crois, mémoire.
Ah, oui. Bon, il y a prescription, tout ça.
Hein. Oui, oui.
Attention,
oui.
Nous n'allons pas faire dans le politiquement correct aujourd'hui. Yves, j'entends cette histoire. J'imagine que quand elle tombe dans tes oreilles, évidemment, tout de suite, tu commences à cogiter à comment valoriser ce patrimoine. Mais comment votre rencontre s'est opérée avec Clara?
En fait, on se connaît depuis quelques années avec Clara. À peu près depuis 25 ans. Et on a travaillé ensemble. Clara était une cliente dans les années 90. Dans les années 90. Et je savais déjà qu'elle était le prof, qu'elle était la fille d'un prof que moi j'avais croisé la dernière année de son activité en 86, aux Beaux-Arts de Rennes. Parce que je suis un ancien élève des Beaux-Arts. Et donc, déjà à l'époque donc on travaillait ensemble, on s'est un peu perdu de vue. À un moment, on arrêtait plus ou moins de travailler ensemble, en fait, tout simplement. Et puis un jour, un beau jour, Clara, il y a 3-4 ans,
Alors, je me rappelle exactement, c'était en janvier 2022.
Ah oui, 3 ans.
Le matin même, je tombe sur une mine, parce que ma mère étant décédée quelques mois avant, j'ai accès à des archives manuscrites de mon père que je ne connaissais pas. Et j'avais déjà cette collection de maquettes volumes. Sur les bras, entre guillemets, toute proportion gardée. Et donc, le matin même, je me dis, mais il faut faire quelque chose de plus que simplement m'occuper de cette collection. Et j'ai pensé tout de suite aux éditions de Juillet et à Yves que je connaissais. Je l'ai appelé, mais dans la foulée, juste pour avoir un conseil. Et j'étais à milieu de penser que cet ouvrage, je l'aurais écrit. Pour moi, il fallait faire un ouvrage, mais je ne sais pas qui, comment et quoi.
Oui, parce qu'on ne pouvait pas faire fi de ne pas mettre de la couleur, des images, des dessins, des photos, etc. pour accompagner les textes, étant donné la nature même du métier de Claude Bessou.
Oui.
Oui, et c'est un gros travail éditorial.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même l'icono qui est quand même bien fournie. Clara, en plus, elle avait un peu tout en tête quand même. Hein, mais pas forcément nous, en fait. Et donc, ça a pris deux grosses années, en fait.
Trois ans et demi, tout compris, de porte à porte, comme on pourrait dire. C'est-à-dire entre le premier coup de fil et le fait de tenir cet ouvrage que vous tenez vous-même dans vos mains. Le 15 septembre dernier, je m'en rappellerai toujours. Donc ça a fait 3 ans et 9 mois. Mais bon, il y a eu une année où moi, je n'ai pas avancé parce que pour des raisons professionnelles, j'avais moins le temps.
Alors voilà, j'ai entre les mains l'illusionniste. Déjà, le titre est très beau. C'est-à-dire que, oui, sa vie était quand même de donner à voir de l'illusion.
Mais c'est comme ça qu'il définissait la scénographie. Hein. C'était l'art de l'illusion. Parce que pour lui, son attachement, c'était de projeter le spectateur dans une autre réalité. Au service, donc son projet était au service d'une vision, celle du metteur en scène, et d'un jeu d'acteur, celle des comédiens. Donc lui, c'était un serviteur. C'est pour ça qu'il aimait rester dans l'ombre.
Mais encore là-dedans, dans ce livre, avec le texte qui accompagne ces images, comment vous avez fait les choix? Parce que j'imagine que dans son parcours professionnel, il y a eu énormément de projets. Tout n'est pas dedans, si. 200 pages, pour le de 200 pages, déjà, sont...
Alors, tout n'est pas dedans, non. Mais toutes les facettes de sa vie sont représentées.
Et les œuvres les plus peut-être parlantes aussi pour le public.
Oui, bien sûr, il y a des œuvres phares. Je pense notamment à Un été 43, qui est une œuvre phare pour moi, en tant que dessinateur, mais il a 18 ans. Il y a des œuvres phares dans sa carrière de scénographie avec des maquettes emblématiques, maintenant qui s'appellent Les Caprices de Marianne de Musset, qui est la maquette blanche dont tout le monde salue le côté assez exceptionnel.
Oui, féerique.
Et puis il y a des œuvres phares en peinture aussi. Donc il y a des œuvres phares. En revanche, moi, ce qui a été un gros travail, peut-être même le plus gros, qui m'a pris 6 mois, c'était d'architecturer le livre. C'est-à-dire, je raconte pas comment je l'organise.
Ouais.
Et ça, ils m'ont laissé. Là, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on m'a laissé complètement libre. La seule contrainte, c'est qu'on m'a dit, c'est toi l'auteur. Bon, donc je me suis attelée.
Ouais, ça a été un truc.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus. On est avec Yves et Clara, en train de parler de l'œuvre de Claude Bessou. Eh bien, l'illusionniste, avec un livre magnifique, paru depuis le mois de septembre aux éditions Juillet. Un livre lourd, avec imposant, mais avec toute une histoire, avec une richesse tellement importante qu'on se rend compte de trésors qu'on a entre les mains. Et je trouve assez inhabituel cette couleur jaune, un petit peu soutenue, mais pas voyante, qui a été choisie pour la couverture du livre. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus de la façon comme déjà on découvre le livre, par exemple, chez les libraires ou près de chez vous ?
Alors, la couleur jaune, c'est marrant parce qu'elle s'est imposée dès le début et j'en ai jamais changé. Et j'ai montré à Clara, ça
m'allait bien.
Ouais.
Et même le choix d'illustration.
Oui, et en fait, l'illustration, c'est aussi un contraste, parce que tout est en noir autrement sur cette couverture.
Oui.
Et le dessin, qui n'est pas représenté à l'intérieur d'ailleurs.
Si.
Si, oui, mais pas dans cette version-là, pas en noir.
Parce que c'était une série d'illustrations pour un roman.
Ouais. En fait, je trouvais que c'était une jolie métaphore du théâtre, en fait, cette illustration avec cette porte ouverte, etc., etc.
Et en plus, on disait un petit peu hors antenne au moment où on écoutait la musique, qui d'ailleurs était choisie par les soins de Yves comme d'habitude et qui est tombée à pic. Hein, on est d'accord, hein, Misrilou. Vraiment, c'était parfait pour ce que nous sommes en train de raconter, l'illusionniste. Nous étions en train de parler que l'univers de Claude Bessou était très éclectique, très éclaté et très riche. Donc, compliqué quand même de concentrer, mais on va découvrir un livre extrêmement riche là-dessus aussi, parce qu'entre le graphisme, le dessin, les décors, enfin, il y a mille choses et sa vie aussi, Clara.
Il y a une vie très riche et puis il y a 10 métiers. Donc il y a le dessin, il y a la peinture, il y a l'illustration, il y a le graphisme, il y a le décor, il y a la scénographie. Pour moi, c'est pas exactement pareil. Mmh. Il y a les costumes, parce qu'il faisait vraiment tous les costumes aussi. Donc il y a toute une palette. Et puis c'était un grand maquettiste. C'était un bricoleur de génie. Donc et la maquette de volume, pour lui, c'était son outil de prédilection.
Oui. Alors peut-être qu'on peut dire qu'est-ce qu'il ne faisait pas.
Eh ben là, je suis sans voix.
Et donc ces maquettes, on les découvre peut-être à une échelle, une petite échelle, mais elles existent aussi en grande échelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont aux archives départementaux.
Au niveau des maquettes, l'essentiel de la collection, on va dire même quasiment la collection totale, parce qu'au départ, on avait 53 maquettes qu'on avait avec mon père dans les années 90, restaurées, rendues visibles et présentables. Il y en avait 53. Maintenant, il y en a 48, et les 48 sont aux archives départementales.
Donc, il y a eu une exposition quand même dédiée pendant une semaine qui a permis à des personnes de découvrir la maquette au même temps de la sortie du livre.
Oui.
Mais peut-être un événement à renouveler, et renouveler assez rapidement, pourquoi pas, à une autre occasion à venir, Yves, au mois de novembre.
Oui, effectivement.
Ce ne sera pas une expo.
Bon, je reviens avec vous. Ouais, pardon.
Ça y est, elle arrive.
Il y a un salon du livre à l'École des Beaux-Arts de Rennes dans le Cloître, le 22 et 23 novembre prochain, dans le cadre du festival Glace, qui est un festival. Peut-être je reviendrai ici à en parler, hein, parce que j'en fais partie, ou les Nike des Tombées de la Nuit viendra peut-être aussi, je ne sais pas. Et voilà, c'est l'occasion, puisque en plus Claude Bessou était quand même un professeur réputé et renommé à son époque aux Beaux-Arts de Rennes. C'est ce qu'il a fait venir en Bretagne, donc il était tout à fait légitime de venir demander à Clara de venir au moins dédicacer et rencontrer des lecteurs.
Et donc voir aussi s'il y a des occasions, pourquoi pas, de ressortir des maquettes, etc., dans d'autres lieux, pourquoi pas à Rennes ou ailleurs, puisque son œuvre reste quand même emblématique et peut-être des cas d'école, non ?
Absolument, parce que c'est quelque chose de très important pour moi, c'est qu'il faut permettre à cette collection de ressortir des arts, des archives. Et donc pour moi, c'est essentiel de porter des projets, mais qui je voudrais que cette œuvre-là m'échappe un peu, en fait. Mmh. Et
toutes sont très héritières de ton père.
Non, je suis un, comment dire, je suis pas une, je suis une héritière à la base, légalement, oui, tout à fait, mais en revanche, je suis une porteuse
de voix,
d'œuvres, voilà, oui, une porteuse de voix et une transmetteuse, parce que je, dans la ligne, je sais pas si on dit transmetteuse,
si,
ou transmetteureux, tout ça pour dire que mon père mettait, pour lui, la transmission, c'était très important, parce, oui, qu'il me disait très souvent avec malice, transmettre, 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 et moi, j'ai transmis, mais maintenant, je veux qu'on partage, et pas que moi. Que d'autres s'en emparent. Donc, c'est pour ça que, si je peux me permettre d'en parler aujourd'hui, je monte une association qui s'appelle Claude Bessou pour porter, pour aider des initiatives qui ne viennent pas forcément de moi, pour par exemple créer des ateliers pédagogiques, ambulatoires, qui vont aller dans les écoles ou ailleurs, pour que cette œuvre-là soit vraiment mise en valeur.
Mise en valeur.
Et qui appartienne à tout le monde.
Voilà, exactement, inspirante. C'était le cas pour toi quand tu l'as connue, Yves. Est-ce que tu arrives à te remémorer ce moment où
Alors, je me souviens de sa silhouette, mais je ne l'ai jamais eu en cours, en fait.
D'accord.
Parce qu'il était. La dernière année d'activité pour lui correspondait à mon année de probatoire, à l'époque je ne sais pas si ça existe encore, donc c'était la première année, donc lui il était plutôt dans les classes supérieures.
Mmh. Et mais il avait une aura, il avait quelque chose qui
planait. Oui, puisque j'ai connu des gens qui l'ont eu par contre, ouais, à l'époque, qui étaient un peu plus âgés que moi, peut-être 2-3 ans de plus, hein. Mmh. Cet âge-là c'est vite fait, et donc et qui vraiment l'aimait beaucoup.
Oui, Clara.
Ah oui, je voulais juste préciser, parce que Claude, quand il est arrivé aux Beaux-Arts, il était ce qu'on appelle professeur de décoration plane, donc c'est de la déco, mais les grandes affiches, les décors de théâtre, etc., etc. Mais après, dans les années 70, avec l'arrivée de la scénographie, il a créé le premier atelier de scénographie, et les premières scénographes bretons, on va dire, sont sortis de son atelier. Mmh. Donc quand ça, c'était dans les années 70, et quand Yves arrive... Ben, il n'était plus que prof de son atelier de scénographie. Mmh. Il ne faisait plus les probatoires.
Oui,
il les a fait pendant très longtemps.
Hein, c'était beaucoup de travail quand même. Hein, sans
oui.
Ça devait être des projets très longs.
Jours,
oui. Est-ce qu'on peut parler encore... Tout à l'heure, nous avons parlé de deux projets emblématiques de son parcours. On a parlé déjà de quelques œuvres, mais on pourrait encore parler même dans d'autres domaines qu'il a pu toucher, des choses que les gens sont susceptibles de plus ou moins déjà entendu parler.
Alors là,
Alors moi j'ai quand même un truc, parce que c'est vrai que quand on voit le parcours de cet homme, il dessine vraiment, il dessine comme Mathurin Méo quand il a 18 ans, quand il fait de la peinture en 45, il se fait aussitôt remarquer, il fait le salon d'automne, enfin, il a une carrière assez brillante en fait, il est brillant au départ, et... Quand il fait les arts déco en 3 ans, et il en sort, et je ne sais pas quel âge il a 20 ans peut-être.
20 ans, parce qu'il est né en janvier 25.
Ouais, donc tu vois que ça va vraiment très très vite pour lui au départ. C'est pour ça qu'il se retrouve prof à 23 ans d'ailleurs, oui, parce que ça va vraiment très vite.
C'est pas exactement la raison.
Non, mais c'est un surdoué.
C'est un surdoué, mais qui a été coupé net par la poliomyélite. Parce que normalement, il n'aurait jamais dû arriver en Bretagne. Mmh. Parce que lui, il avait fait une sortie effectivement fulgurante. Et on est en 45, sortie de la guerre, et il devait faire le tour du monde. Mmh. Il avait pris des jalons, bah, justement, au Brésil, en Amérique latine, et c'était son projet. Mmh. Et il se retrouve un matin paralysé par la poliomyélite. Donc après, il y a eu tout un parcours de résilience. La peinture l'a aidé vraiment à s'en sortir. Et pour sortir un peu de Paris, qui commençait un peu à étouffer, il a accepté ce poste à Rennes, parce que c'était pas si loin que ça, tout en prenant de l'air.
Bon, c'est vrai qu'il avait aussi choisi des études artistiques à la base, on est d'accord.
Ah bah oui.
Et puis,
voilà.
Et puis, il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment énormément plu, qui est un aspect qui n'est pas forcément détectable à première vue dans ce livre-là, c'est que, en fait, ça correspond à une époque où, en fait, l'enseignement n'était pas extrêmement spécialisé. Ce qui fait que les gens, dans le sens où quand on fait les arts déco, on fait de la lettre, on fait de l'affiche, on fait du meuble, on fait enfin, on fait tout, quoi. On sait, et à la fin, quand on est vraiment bon, comme lui, ben en fait, on sait tout faire. Et donc, moi, je connais très peu d'illustrateurs, par exemple, ou dessinateurs, qui sont des graphistes exceptionnels. Il n'y en a pas tant que ça. Et il y a des affiches qui sont magnifiques. Vraiment. Donc il était capable à la fois de mettre de faire enfiler des balles de coton pour monter un décor, ouais. Pour faire un décor, et en même temps, il était capable de faire une affiche ou le logo de la Maison de la Culture. Il n'y avait aucun problème, en fait.
Clara Bessou, on sent l'amour dans ta voix, l'amour que tu portes pour ton père, cet illusionniste. Comment te sens-tu maintenant que ce beau livre est entre nos mains ?
Mission accomplie.
Ou c'est le début de quelque chose, non pas la fin.
Ou la poursuite plutôt.
Ou la poursuite.
Que le début de quelque chose. Moi, j'avais fait une promesse dans les années 90 quand on travaillait ensemble sur cette exposition qui s'est appelée L'illusion théâtrale, une aventure en 50 maquettes. Il m'avait fait promettre que cette collection, je la protège. De jamais la vendre, de jamais la disperser et surtout de lui trouver un refuge. Alors j'ai mis 30 ans à honorer cette promesse. Et dans le même temps que j'ai fait cette promesse et que j'honore cette promesse, le livre, moi, me permet d'honorer un engagement que je m'étais fait à rendre cette œuvre donc accessible et visible au plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça, quand je dis mission accomplie, c'est que je ne peux pas dire que je suis soulagée, c'est ben, j'ai fait mon job en fait. Ça paraît peut-être un peu froid, mais j'ai fait le job.
C'est important d'avoir ce sentiment d'avoir fait le job quand on a une mission.
Surtout quand vous avez des retours très positifs de gens qui l'ont connu et qui sont très contents d'avoir le livre en disant qu'ils en pleurent, certains en pleurent en lisant certains passages. Donc ça me touche.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
En tout cas, moi j'étais ravie de vous rencontrer ici à l'antenne de Canal B. Tous les deux, Yves, quel bonheur. Vraiment, autour de ce livre de Clara Bessou, L'illusionniste, c'est un hommage magnifique à Claude Bessou, est paru aux éditions de Juillet. Peut-être même quelque chose qu'il faut penser à mettre sous le sapin, tiens, non ?
Quelle bonne idée.
Très bonne idée. Merci, Juliana.
Merci à vous. On le trouve, bien sûr, sur le site des éditions de Juillet.
Oui, et puis dans les librairies. Hein.
Et voilà.
Et
voilà,
s'il n'y est pas, vous engueulez le libraire et vous commandez.
Exactement. Bah, merci d'être venu, en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à vous, bah, je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt pour de nouvelles aventures autour des livres. Allez, passez un bon week-end. Bisous, bye. Used to lose.